Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, aujourd'hui dans À voix haute, je vous propose de découvrir le troisième roman d'Alexandra Kozelik, L'archiviste, qui vient tout juste de paraître aux éditions Aux Forges de Vulcain, ce mois d'octobre 2022. La nuit était tombée sur l'Ukraine. Comme à son habitude, K était assise au bord du lit, attendant que sa mère s'endorme. La jeune femme était revenue vivre dans l'appartement de son enfance après la crise qui avait laissé sa mère infirme. Une fois que les traits de celle-ci se détendirent, que sa respiration devint paisible, qu'elle retrouva sur son visage cette lucidité que l'éveil lui ôtait, K sortit de la chambre et referma la porte avec douceur. Dans la cuisine, elle prépara un café et, pendant que l'eau chauffait, alluma une cigarette, appuyée contre la fenêtre. Son regard se perdit dans la ville, où les réverbères diffusaient une lumière douceâtre. Des images de l'invasion lui revinrent. La sidération le jour même, la bascule d'un temps vers un autre, ouvert à d'effrayantes incertitudes, cette faculté déjà de percevoir qu'un point sans retour venait d'être franchi. Comment aurait-elle pu se dire qu'un passé, dont chacun possédait encore le souvenir, allait redevenir l'exacte réalité? N'apprend-on donc rien des leçons de la guerre? Les premiers bombardements, les premiers tirs, les incendies, les murs des immeubles qui tombaient par morceaux, éclatant au sol comme des fruits trop mûrs à la fin de l'été, des fruits lourds de tout ce que l'être humain n'arrive pas à comprendre. Partout disséminés, des objets du quotidien qui ne retrouveraient jamais leur usage et qui, dans la rue, devenaient absurdes, piétinés par la foule qui courait se mettre à l'abri aux premières sirènes. Combien de visages pétrifiés, ahuris à jamais par ce monde plein de douleurs. Combien de corps fallait-il jeter à la hâte au creux des fosses pour éviter les maladies et la profération des vermines? Combien d'enfants aux yeux emplis de visions d'horreur qui ne s'endormaient qu'au matin, épuisés par un combat nocturne contre une fatigue au goût de mort? Et ces autres là-bas, dans ces pays hors d'atteinte où le quotidien n'avait pas été saccagé? Combien de temps fallait-il pour que nos voix leur parviennent? Jusqu'où l'écho d'un appel aux armes devait-il aller? Quel degré d'horreur devait-on atteindre pour qu'ils réagissent? Les jours passaient et personne ne venait, les gens restaient incrédules. Au hasard des rues, K aperçut ce duo de soldats, le fusil en bandoulière. Ils avaient visiblement pour mission de décrocher des panneaux. Les suites de la guerre passaient aussi par ces corrections apparemment anodines. Faire passer toute la signalétique dans la langue de l'envahisseur, bannir celle du pays. L'invasion n'était pas terminée, qu'elle préparait déjà le temps d'après, vieille méthode romaine de débaptiser les lieux. L'un des soldats lança l'ancien panneau dans la benne d'un camion. Puis, il se tourna vers son comparse et celui-ci lui fit comprendre, d'un signe de tête, de continuer plus loin sur la chaussée. Ils remontèrent l'avenue, soulevant, avec moquerie, quelques pierres du bout de leurs chaussures, comme pour vérifier qu'en dessous ne restait aucun souvenir à effacer. Un ours en peluche, jeté hors d'un immeuble en ruine, avec d'autres biens épars d'une famille, se trouvait sur leur chemin. Enhardi par la plaisanterie qui lui venait, un des soldats s'en empara avec violence et fit mine de le cajoler en lui grattant le ventre de l'index, feignant devant l'autre un visage attendri. Ils éclatèrent d'un rire sec, un rire sans humour. d'où elle était, K entendait une berceuse. Elle eut à peine le temps de comprendre que la mélodie venait de la peluche. Le soldat envoya l'ourson dans les airs, l'autre le rattrapa du pied et se mit à jongler avec, d'un pied à l'autre. Les deux hommes étaient-ils lards? Ils s'amusaient ainsi, sans honneur, d'un débris d'enfance. Après un dernier coup de pied dans la tête de l'ourson, les soldats disparurent au coin d'un carrefour. Le vent s'engouffra dans les immeubles troués d'obus, et K fut interpellé par cette solitude qui baignait les rues. Les immeubles éventrés, jetés au sol, l'exode des femmes et des enfants, leurs valises à la main, légères de la vie disparue mais alourdies du poids des adieux. Personne n'était venu. Sa patrie était malade désormais. Comme après la Première Guerre mondiale, où l'Autriche-Hongrie s'était décomposée par traités successifs, ses frontières démantelées. Comme autant des hordes mongoles, dépecées à vif, morcelées par un envahisseur qui poursuivait ses buts de guerre. Comme en 1667, au temps des Cosaques aussi, où l'Ukraine fut partagée et divisée en deux, une partie à la Pologne, l'autre à la Russie. Ce matin-là, quand les premiers tirs avaient touché la ville dans une confusion terrible, les conservateurs et les travailleurs des établissements culturels du pays avaient décidé de mettre à l'abri les œuvres et les pièces placées sous leur responsabilité. Sous la menace des bombardements, ils n'avaient pas eu le loisir de les regrouper par époque, nature ou lieu d'exposition, mais les avaient indifféremment précipités au fond des galeries, des souterrains, des mines et des égouts. Ainsi l'art serait-il caché de la lumière, tandis qu'en surface les hommes continueraient de mener une lutte mortelle. Croire en l'avenir, et c'est tout l'enjeu d'une vie humaine, passe d'abord par la préservation du passé, face à une destruction imminente et sans visage. À la hâte, des volontaires avaient décroché les toiles, transporté les statues, collecté des œuvres et des documents d'importance, laissant réapparaître dans les musées la couleur des sols et des murs nus. Au fil des jours et des avancées victorieuses de l'ennemi, K avait vu sa patrie devenir une fille abandonnée, mais qui n'en avait pas moins gardé son âme, même ensevelie. Au carrefour des principaux boulevards de la ville, non loin des musées, la bibliothèque tenue par K s'élevait sur de gigantesques sous-sols. C'était un lieu babylonien que son prédécesseur lui avait fait visiter quand cet archiviste avait pris ses fonctions de directrice. Ils avaient passé de longues heures à arpenter les couloirs voûtés à la fraîcheur du monde. « Vous pourrez entreposer ici vos meilleures bouteilles, » avait-il plaisanté. « Personne ne vous les prendra. » À supposer que vous puissiez vous-même les retrouver. K, ne buvant pas, l'espace immense était resté absolument vide, jusqu'à l'invasion. Les sous-sols de la bibliothèque avaient constitué une cachette idéale. Les choses s'étaient précipitées, il avait fallu faire vite. Les archivistes de la ville avaient décidé que cette ancienne abbatiale, avec ses nombreuses galeries souterraines, était le lieu idéal pour entreposer les œuvres. Les objets étaient arrivés portés à bout de bras, acheminés par des hommes, des femmes et des enfants, comme si c'était leur propre cœur tombé au sol. Les longs couloirs s'étaient remplis, le profane avait peu à peu côtoyé le sacré, sans distinction ou hiérarchie. Tout le patrimoine de la région et une partie de celui de la nation s'étaient retrouvés là, dans ces galeries souterraines, à dormir à l'abri des bombes. Puis, la ville avait été prise. Les autres conservateurs n'étaient plus revenus. Certains étaient morts, engloutis par les combats. D'autres s'étaient exilés quelque part plus à l'ouest. K était resté seul à garder les archives et les trésors du sous-sol. C'était son choix. Elle s'était décidée sans hésitation. Au fil des semaines, la jeune femme ne croisait presque plus personne dans les rues. Elle s'était dit qu'elle devait être la seule à savoir ce que ces souterrains dissimulaient. Elle se rappelait ses meilleures cachettes quand elle était petite. C'était celle qui était à la vue de tous, où personne ne pensait chercher. Dans la journée, son travail consistait à descendre l'escalier menant aux galeries, vers les tréfonds, pour répertorier les œuvres, recenser les pertes, étiqueter et préparer, en somme, leur éventuel retour dans les musées. K était donc à la fenêtre, dans l'appartement de sa mère, regardant la ville. Dans la tasse, le café était devenu froid. La jeune femme l'avala d'un trait avec une moue de dégoût. Toutes ces images, pas si lointaines, revenaient infatigablement à la charge. Elles peuplaient ses journées autant que ses nuits. Mais que pouvait-elle faire d'autre qu'y penser, elle, l'archiviste? Sa bibliothèque offrait toujours la même température, le même éclairage tamisé, la même place pour les livres dans les rayonnages. K, en maîtresse des lieux, avait la certitude que le temps n'y ferait rien, que dans 100 ans l'endroit serait identique. Les générations suivantes y découvriraient, émues, le frémissement de la source humaine. La pensée y était comme une eau qui repose, rescapée des tourments et des passions dont elle avait ruisselé. Les livres avaient toujours été des confidents aux vérités immuables. Lors de ses nuits d'insomnie, la jeune archiviste n'hésitait pas à s'y retirer. Quand elle refermait la lourde porte sur le silence des choses, les voix du dehors s'éteignaient, elle qui la malmenait et ensablait désormais son cœur. Chaque fois, l'épaisseur de ses murs la préservait du chaos. K adorait plus que tout feuilleter des ouvrages, passer d'un volume du XVIe siècle à des textes plus contemporains, consulter des inventaires domaniaux comme s'il s'agissait de romans d'amour. Cette nuit-là encore, quand elle quitterait l'appartement de sa mère, ce refuge s'ouvrirait grand pour elle. Rester dans cet immeuble l'étouffait. Elle y jetait partout un regard nostalgique.
Thank you.
À voix haute, Meredith Ledez.
Une fois la tasse lavée, K sortit de l'appartement de sa mère. Le soir, étonnamment doux, sans vent ni fraîcheur, la désorienta vers le parc. Là-bas, sous les arbres, elle se promena et s'assit sur un roc quelques minutes. La plupart des gravats avaient été retirés, mais quelques-uns restaient entassés au coin des rues, reliques posées là comme témoins de ce qu'avait été l'invasion. K avait appris à vivre avec ces images. Après la stupéfaction et le déni, était venu le temps de la colère. Elle s'était mise en tête de rejoindre le front, avait pris contact avec de vieilles connaissances susceptibles de la guider, mais elle était revenue à un sentiment plus pacifiste qui l'avait retenue d'accroître le désordre général. Elle s'était résignée à rester à l'arrière et avait cherché à mettre de l'ordre dans les galeries souterraines. Telle serait sa façon de lutter, de prêter main forte. Une brise sur son visage la ramena au présent. Elle promena son regard sur le parc. À certains endroits, les arbres avaient plié, d'autres étaient calcinés. Jamais plus ils ne sortiraient leurs bourgeons et n'oseraient croître dans la quiétude du soleil. Un peu plus loin encore, derrière les hautes grilles, un immeuble montrait les deux visages de la guerre. D'un côté, ses murs semblaient tenir grâce aux doigts d'un dieu badin. De l'autre, des rideaux voltaient mollement aux fenêtres sans vitres et semblaient attendre qu'une main humaine les tire de nouveau. Des existences perdues criaient ici leur absence. K se remit en route. Autour d'elle, sans qu'elle les voie, des ombres avaient enveloppé son corps avec précaution. Chacune avait étendu son bras pour poser lentement sa main sur l'archiviste, et ce subtil toucher l'avait conduite vers la bibliothèque. D'autres, en arrière, marchaient dans ses pas et faisaient cortège. Toutes étaient comme aspirées vers ce dernier théâtre du monde. K s'attardait rarement dans les rues, où elle peinait à retrouver les échos de l'ancien temps. Il n'y avait plus que les livres pour rejoindre le chemin de ce qu'elle connaissait. Au cœur de tous ces ouvrages, l'oralité du monde s'était effacée au profit de la page et de l'encre. L'écrit est ce champ silencieux qui conserve les productions de l'esprit au long des siècles. Qu'est-ce qu'une langue, si ce n'est une musique au secours d'une idée, une harmonie et un rythme portés par les trouvailles de l'imaginaire? Les ombres suivaient K. Morte depuis longtemps, elle n'avait que cette jeune archiviste pour ne pas s'habituer au désespoir de leur fin. Tomber dans l'oubli était leur crainte unique. Cela anéantirait définitivement tout ce qu'elles avaient été. Ces ombres avaient besoin d'elles pour garder leur consistance, vivre près de ce qui fait les œuvres d'art, afin de ne pas disparaître tout à fait. Grâce aux lectures que K donnait à voix haute, ces fantômes jaillissaient dans les allées de la bibliothèque, entendaient à nouveau l'éclat de leurs pas sur le sol retrouvé, et leurs gestes coïncidaient enfin avec des sons. Les ombres savaient que, ce soir, un être retirerait au mot leur masque théorique, leur posture décapitée, qu'il leur redonnerait figure humaine et enlèverait la poussière d'oubli qui les étouffait, qu'il les sortirait de leur page, de leur témoignage, pour retrouver leur rondeur, leur peau, leur existence en somme. Quand K ouvrit puis referma la porte de la bibliothèque, les ombres eurent juste le temps de se glisser derrière elle, avec l'impatience des choses qui ne meurent jamais. Une oreille délicate aurait entendu des soupirs de soulagement, ou bien relevé le grésillement soudain des lumières de la bibliothèque. Le doigt sur l'interrupteur, K se contenta de sourire aux vieilles lampes d'un jaune accueillant. Elle savait qu'une fois encore, elle ne dormirait pas, alors elle était venue. Plongée dans les histoires qui s'offraient à elle comme autant d'échappées heureuses et fondatrices. La fatigue s'éloignait. une nouvelle fois, elle allait récolter les mots des autres. Le réel prendrait peu à peu la dimension d'un songe. Ces mots noircis venus d'une autre époque n'en apparaissaient pas moins robustes. Ils n'étaient pas devenus des spectres sortis de la tombe, mais étaient gorgés de mémoire, possédaient toujours leur ferveur, apparaissant même dans de nouveaux habits, éternellement jeunes. Ils enjambaient le temps. Mais cette nuit-là ne serait pas comme les autres. K ne resterait pas la maîtresse de son aventure. Ses voiles iraient ailleurs, dans une direction inimaginable même pour une férue d'exploits littéraires. Peu après minuit, des bruits se firent entendre dans l'antichambre. La serrure remua, les gonds grincèrent, troublant le repos des livres et des ombres. À ce moment-là, K regardait une feuille avec sa loupe, assise à son bureau au milieu de la pièce. Elle sentit un certain vide autour d'elle et se leva, le cœur inquiet. À sa connaissance, elle était la seule à posséder la clé de cette porte. Des bruits de pas s'approchèrent dans la bibliothèque et un homme svelte aux épaules carrées apparut. Habillé d'un trois quarts sombre, aux nombreuses poches, il portait un chapeau. De la main gauche, il tenait une canne à pommeau en métal et de la droite, il secouait un parapluie trempé. Puis, il fixa l'archiviste quelques secondes en silence. Les lumières tressaillirent. « Qui êtes-vous ? » lança K pour se donner du courage. L'homme au chapeau restait silencieux. Il semblait attendre le moment où l'archiviste aurait dû s'avancer pour lui indiquer sans ménagement la sortie. Il enleva son chapeau et arrangea le ruban satiné qui en faisait le tour. « Vous ne me posez pas la bonne question, ma chère. Qu'est-ce que nous allons faire désormais ? » aurait plus justement permis d'envisager la suite. Mais vous ne pouvez pas savoir, c'est vrai. Il se mit à observer les voûtes et les rayonnages. L'endroit est merveilleux, on m'avait prévenu. S'avançant doucement, il parcourut du doigt le dos des volumes, s'arrêtant avec raideur sur quelques titres. Saint Thomas avait tort. Il n'y a pas que ce qu'on voit qui existe. L'homme présentait sous la lumière une figure sans âge. Sa voix avait des accents guerriers qui ne laissaient aucune place à la contradiction. Il avait parlé sans regarder K dans les yeux, bien décidé, semblait-il, à ne le faire qu'à la toute fin, pour lui adresser expressément son opinion sur Saint Thomas. L'archiviste ne savait pas comment interpréter ce regard. Était-ce l'expression d'un goût pour le spectaculaire ou une mise en garde ? Même si K s'efforçait de garder contenance, un tic nerveux traversa son visage. Elle resta muette. Aucune des réponses qui lui avaient traversé l'esprit ne présentait à son sens la fermeté nécessaire à cette troublante rencontre. « Quel travail incroyable vous faites depuis plusieurs semaines ! On entend parler de vous de si loin, vous en rougiriez. » Qui savait ce qu'elle faisait de ses journées ? N'était-elle pas la seule à être au courant que des objets d'art dormaient sous leurs pieds ? Comment ? Ma chère, des espions étaient déjà dans votre pays avant même les premiers signes d'affrontement. L'homme se mit à rire et disparut au fond d'une allée pour revenir aussitôt vers K, une chaise à la main. Si vous permettez. Un sourire sarcastique accueillit le silence de l'archiviste qui cherchait surtout un soulagement, l'assurance que cet homme n'avait dans sa conduite ou ses paroles aucune intention abjecte. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit l'homme au chapeau, prenant lui-même place sur la chaise qu'il avait apportée. Une fois installés, ils se regardèrent. Ils dégageaient un charme glaçant. « Comment allait votre pauvre mère ce soir ?» K comprit. Elle dissimula sa main droite qui s'était mise à trembler. Aucun hasard n'avait commandé leur rencontre. L'homme devant elle n'était pas un malfrat qui avait crocheté une serrure, mais une autorité en mission qui avait la clé. Il voulait quelque chose d'elle. Ka bredouilla qu'elle allait bien. L'autre poursuivit. « Vous êtes un exemple de piété filiale. » L'homme sortit une cigarette et lui tendit le paquet. « Non, merci. » « Vous vous interdisez ce plaisir ici. Cela apparaît judicieux parmi toutes ces feuilles mortes. » Il eut un sourire glacial en tirant ses premières bouffées. « Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez là un trésor sous terre. L'identité d'un pays, c'est considérable. Eh bien, nous allons tous deux la rendre plus précieuse encore. » Il fit tomber quelques cendres sur le sol et marqua une pause. Ces objets vantent une gloire problématique, et c'est peu dire qu'elle est de nos jours une source de désunion. Il faut regarder la réalité en face. La foi en la pérennité de certains équilibres est touchante, mais elle empêche des lois plus permanentes et plus vastes que le folklore d'exister. Ka hocha la tête sans prononcer un mot. Elle sentait cependant que le sujet allait la rétablir dans son autorité, puisque cet homme était finalement venu la trouver sur son propre terrain. Mais celui-ci ne semblait pas parler au hasard. « Votre patrie s'est aveuglée à certains feux, des feux qui ne lui appartiennent pas et ne lui appartiendront jamais. » Il lorgna le texte que l'archiviste venait d'étudier, se penchant en avant pour en feuilleter rapidement les pages, avant de le laisser retomber avec dédain sur le bureau. La scission, c'est funeste, et de la part de votre pays, la dernière preuve du déclin de votre jugement. Depuis votre petite révolution, vous avez cherché à troquer notre fraternité millénaire contre des ententes cordiales, mais somme toute très superficielles. Vous vous êtes mise en quête de vraies relations de bureau. Quand on est collègue, on peut perdre rapidement son poste. Des frères peuvent bien se brouiller. Ils n'en demeurent pas moins frères. » L'homme au chapeau s'était levé et avait disparu derrière Ka, qui n'entendait plus que la ronde de ses pas sur le sol. Il était cette menace qu'enfant, on devine à ses bruits errants dans la maison, inapte à distinguer ce qui tient du rêve ou d'un écho véritable. Puis, l'intrus revint par l'autre côté. Sans que Ka, tétanisée, n'ait osé le suivre des yeux, elle voyait l'ombre grandissante de cet homme à mesure qu'il s'approchait d'elle. C'était L'Archiviste, un roman d'Alexandra Kozelik, tout récemment paru aux éditions Aux Forges de Vulcain. Cette émission était réalisée par Frédéric Guyon. Vous avez pu entendre en cours de lecture le Quatuor à cordes numéro 1 opus 49 de Dmitri Shostakovich par le Beethoven Quartet, enregistré en 1961. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.